إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons بإذن الله تأسيس الأحكام. Donc ce livre de jurisprudence qui comprend les hadiths authentiques du prophète صلى الله عليه وسلم concernant الأحكام, les règles, les lois, ce qui touche donc la jurisprudence. Le dernier cours, on avait vu la question de faire ses besoins en direction de la Qibla. Quel était le hukm? Quelles étaient les divergences? Ou sur quelles preuves reposaient les avis? Et à la kulli hal, aujourd'hui donc on va continuer. Et donc on s'est arrêté au hadith numéro 15, le 15e hadith. يقول المؤلف رحمه الله عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. الإداوة إناء صغير من جلد, والعنزة الحربة الصغيرة. Donc ce hadith qui est toujours dans le chapitre de At-Tahara, la purification, hadith rapporté par Anas ibn Malik, et qui est un hadith que l'on trouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, donc muttafaqun alayh. Anas ibn Malik, qui était connu donc comme étant le khadim, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rapporte donc ce hadith. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadukhulu al-khala. Yadukhulu al-khala. Donc al-khala, le shir, il va nous en donner la définition. Il dit al-makanu al-khali. Al-makanu al-khali. C'est l'endroit qui est désert, l'endroit où il n'y a personne, il n'y a rien. Al-makan al-khali. Fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi. Yani ghulamun nahwi. Donc Anas, il dit que lui, il portait ainsi que un jeune homme ou un jeune enfant qui était donc comme lui au niveau de l'âge, et également qui était un servant. Yani fissin ou le khidma. Idawatan min ma'in wa anaza. Donc al-idawa, comme nous le dit al-mu'allifu rahimullah, ina'un sagirun min jild. C'est donc un récipient qui est fabriqué à partir de cuir. Wal anaza, c'est l'harbatu sagira. C'est donc la lance, une lance courte, ou une baïonnette. Ça c'est al-anazatu. Donc Anas et le jeune qui l'accompagnait, Al-Ghulam, il portait donc ces deux choses avec eux. Fayastanji bilma, al-istinja'u izalatun najazati min al-makhraji wa al-qadhar bilma'i aw al-hijara. Donc al-istinja, comme on l'a déjà vu, et qui a pour, dans ce chapitre-là, comme muradif, synonyme, al-istitaba, al-istijmar, al-istinja, donc tout ça c'est des termes qui veulent dire la même chose. Dans ce chapitre-là, il nous dit le shir, izalatun najasati min al-makhraj. C'est donc dissiper l'impureté que l'on trouve donc au niveau du makhraj, donc au niveau des orifices ou de l'orifice. Et ici on le fait avec soit avec de l'eau ou soit avec de al-hijara, soit avec de l'eau, soit avec des pierres. comme on l'a vu auparavant, lorsqu'on a vu les hadiths concernant al-istijmar. Donc ça, c'est pour les termes. Et le cheikh nous dit mawdou' al-hadith, donc le sujet du hadith est sunniyat al-istinja'i bilma, c'est que se laver après qu'on ait fait ses besoins, son orifice avec de l'eau ou ses orifices avec de l'eau, alors c'est une sunna, sunniya. Et le sens global de ce hadith, yukhbiru Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam كان يخرج إلى الخلاء فيتبعه هو وغرام آخر بماء للاستنجاء والوضوء وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصلاة. Donc le sens global, c'est que Anas ibn Malik, il nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait pour aller faire ses besoins dans un endroit désertique, un endroit où il n'y a personne, caché donc des regards, alors Anas, il le suivait, lui donc, et le roulam qui l'accompagnait, et il prenait donc de l'eau. Cette eau-là qui allait servir à deux choses, à se laver donc, après avoir fait ses besoins, et ensuite al-wudu. Et la deuxième chose qu'il prenait avec eux, c'était également donc un bâton court, une baïonnette comme on a vu, et cela c'était pour qu'il la place comme sutra, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il allait prier, donc lorsqu'il allait prier. Donc c'était les deux fonctions de ces deux choses qu'il prenait avec eux. Il nous dit maintenant le shir firqul hadith. La première chose parmi les questions qu'on voit dans la jurisprudence à partir de ce hadith, fihi istikhdam ar-rajuli al-fadili fi ashabi, donc d'utiliser l'homme qui est connu pour ses vertus, etc., parmi ses amis ou parmi ses ashab, ses compagnons. La deuxième chose, fihi istikhdam as-sagir, c'est-à-dire d'utiliser à des fonctions le petit ou le jeune, tayyib. La troisième chose que l'on voit également dans ce hadith, fihi sunniyatul istinja'i bilma. ويجب عند عدم الحجارة كما تجب الحجارة عند عدمه كما تجب الحجارة عند عدمه عند عدمه أو يستحب الجمع بينهما والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار على أحدهما لأن كليهما واجب مخير بينه وبين الآخر أي الماء والأحجار وهذا ومذهب الجمهور وحكي عن سعد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء بالماء وهو مردود بالنص. Donc il nous dit le cheikh que ça fait partie de la sunna de se laver après avoir fait ses besoins avec de l'eau. Il nous dit c'est même une obligation s'il n'y a pas de pierre pour se nettoyer l'orifice, alors à ce moment-là, il est obligatoire d'utiliser de l'eau. Et il dit, il est préférable d'utiliser les deux, c'est-à-dire de commencer par la pierre et ensuite d'utiliser l'eau. Il va nous dire ici, Cheikh Al-Albani, donc il fait un ta'liq, il donne une remarque par rapport à ce qu'a dit Cheikh Al-Najmi, Rahmatullah Al-Jamir, il nous dit, الاستحباب حكم شرعي فما دليله هنا. C'est-à-dire lorsqu'on dit qu'une chose c'est préférable, الاستحباب ou الندب, c'est un حكم شرعي. On a donné donc un statut juridique à cet acte-là ou à cette chose. Et comme il est connu, tout حكم شرعي, tout statut juridique doit reposer sur une preuve. Et il nous dit le shir, où est la preuve ici? De dire qu'il est préférable d'utiliser les deux, d'utiliser les pierres et également l'eau. Et il va dire, wa hadithu ahli Quba, donc le hadith concernant les gens de Quba, qui habitaient donc à Quba, là où il a été construit la première mosquée, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine. Donc les gens de Quba, dans ce hadith où il est cité, nous faisons suivre les pierres par l'eau. C'est-à-dire qu'on commence par dissiper, par enlever les déchets avec les pierres, et ensuite on termine avec de l'eau. Il nous dit ce hadith-là, qui rapportait des gens de Quba, c'est un hadith, ou qui rapportait à propos des gens de Quba, c'est un hadith qui est da'if, qui est faible. Donc, ici, ça aurait pu être une preuve si le hadith il était authentique. Mais vu qu'il est faible, donc la preuve ne peut être considérée. والصحيح الثابت من طرق انهم كانوا يستنجون بالماء. Par contre, ce qui est authentique d'eux et qui est venu de plusieurs chaînes de transmission, de plusieurs donc versions également, c'est que ils se nettoyaient avec de l'eau. Ils se nettoyaient avec de l'eau. C'est donc la remarque que nous fait Cheikh Al-Albani lorsque Cheikh Najmi l'a dit, wa yustahabbu al-jam'u baynahuma. C'est-à-dire qu'il est préférable d'utiliser les pierres et l'eau en même temps. والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار أو الاقتصار على أحدهما. Et donc, ce qui est préférable, c'est d'utiliser l'eau lorsqu'il y a donc les deux, qu'il y a l'eau et qu'il y a les pierres, et qu'on veut uniquement utiliser un des deux. Donc, il est préférable de choisir l'eau. Ça, c'est son avis, le Shir, et il nous dit. Car les deux, ils sont obligatoires. Les deux sont obligatoires. Et qu'on a le choix entre les deux. Entre donc Al-Ma ou Al-Ahjar. Et ça, c'est le madhab de l'Jumhur. C'est-à-dire donc que l'eau ici, elle est préférable. Si on veut utiliser uniquement un des deux, il dit c'est le madhab des Al-Jumhur. C'est-à-dire de la majorité des savants. Et il a été rapporté de Sa'id ibn al-Musayyib, donc le grand jurisconsulte Sa'id ibn al-Musayyib, également de l'imam Malik, qu'il ne voyait pas inkar al-istinja bil-ma, qu'il ne voyait pas et qu'il réfutait la question de se laver avec de l'eau. Et il nous dit, refuter cela, c'est mardoud, c'est rejeté. Bin-nas, parce que tout simplement, ici on a un texte, et donc un nas qui est le texte, qui soit le verset du Coran ou soit le hadith. Et ici donc on a un hadith, le hadith de Adalbab, de ce chapitre, et qui est le hadith de Anas ibn Malik. Donc l'avis ici ne compte pas. L'avis de Saïd ibn al-Musayyib et de l'imam Malik ne compte pas face au hadith. Rabi'an, la quatrième également, la quatrième question. Yu'khadhu min qawlihi wa anaza istihbabu salati ba'd al-wudu. C'est-à-dire lorsqu'il ramenait avec eux également une baïonnette, un bâton, pour qu'il l'utilise en tant que sutra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça prouvait qu'après qu'il ait fait ses ablutions, il faisait une prière. Donc il est préférable ici, istihbab, et c'est ce qu'on prend du hadith, de l'acte du prophète donc, il est préférable qu'après qu'on ait fait l'eau d'eau, de faire une prière de rak'a. خامساً, cinquième et dernière, يؤخذ منه استحباب السترة في الفضاء والله أعلم. Et également, donc, qu'il est préférable de prendre une sutra, donc de mettre un bâton ou une chose qui va dans ce sens entre devant la personne qui prie, ce qu'on appelle donc un sutra. Il voit, il dit le shir ici, c'est mustahab, c'est-à-dire d'après l'acte du prophète, il est préférable de faire cela. Bien entendu, il y a la divergence entre les savants. Est-ce que la sutra, que ce soit donc fil faba ou autre, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Donc il y a ici une divergence entre les savants. Lui, le shir, il nous dit que de ce qu'on voit du hadith ici, c'est l'istihbab. C'est qu'il est préférable de prendre une sutra lorsqu'on se trouve dans un endroit qui est désert, qui est vide. Wallahu a'lam. Simplement, une faïda qu'on va donner ici en plus de ce qui est écrit, c'est que il est vrai que parmi les salafs, comme on l'a vu, il y en a qui ont dit que il était détestable ou il n'était pas permis d'utiliser de l'eau pour se laver directement et dissiper donc les déchets de son orifice, et qu'il fallait au moins que cela soit précédé par al-hijara, c'est-à-dire par des pierres. Et al-illa ici, le but de cela, c'est qu'ils disent ou qu'ils disaient, la personne lorsqu'elle va se nettoyer directement avec de l'eau, alors sa main va toucher directement donc le déchet. Et c'est cela qui est donc détestable ou même interdit. Yannaka tulawith yadak bin najasa, car tu vas salir donc ta main avec an-najasa, avec l'impureté. Mais c'est, comme on a vu, une parole qui est très faible et une parole même qui est rejetée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a utilisé directement l'eau. Et on répond également que lorsqu'on touche une impureté directement avec sa main pour l'enlever, alors il n'y a pas de mal à cela. Laysat mahdoura, c'est pas un acte qui est interdit. C'est pas un acte qui est interdit. Parce que ici, encore plus, avec l'eau, tout va partir. C'est-à-dire que ce soit la partie qui a été touchée au niveau de l'orifice, également la main, vu qu'on utilise donc de l'eau. À la kulli hal, le hadith ici, il est clair. Ensuite, on va passer au 16e hadith, et qui est le hadith d'Abu Qatada. يقول المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه. Donc le sujet de ce hadith, le hadith de Abu Qatada Ansari رضي الله تعالى Anou, son sujet, c'est ta'alim al-akhlaq al-fadila. C'est d'apprendre donc aux gens les bonnes manières, le bon comportement, les bonnes mœurs. Il va nous rapporter, Abu Qatada al-Ansari, il va nous rapporter une parole ici du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « La yumsikanna ahadukum dhakarahu biyamini wa wayaboul » que personne d'entre vous, donc ici, ne touche son sexe avec sa main droite, wahuwa yaboul, au moment où il urine. Au moment où il urine. Wahuwa yaboul, c'est au moment où il urine. Donc ici, nous dit le shir, yatamassah, marna yastajmir. Yatamassah, marna yastajmir. Et donc, c'est le fait de laver son sexe avec de l'eau, de le nettoyer au moment où on a fait ses besoins. Biyaminihi ay biyadi al-yumna. Yani lorsqu'on dit biyamini, ça veut dire biyadi al-yumna, avec sa main droite. Wala yatamassah min al-khala'i biyaminihi. Naam. Wala yatamassah min al-khala'i biyaminihi. Donc la première partie c'est wala yumsikanna ahadukum dhakarahu biyamini wa huwa yabul. Naam, c'est clair. C'est pas en rapport avec l'istinjarfon, c'est la deuxième partie. Wala yatamassah min al-khala'i biyamini. Et donc yatamassah yastajmir. C'est-à-dire donc qu'il ne se lave pas de ses impuretés au moment donc où il a fait ses besoins, non min al-khala biyamini, avec sa main droite. Donc il n'est pas permis de se laver avec sa main droite, mais d'utiliser donc sa main gauche. Wala yatanaffas fil ina. Wala yatanaffas, le cheikh nous dit la yukhrij nafasahu fil ina'i hal ash-sharb. C'est-à-dire que la personne lorsqu'elle boit, elle ne respire pas à l'intérieur du verre ou alors du récipient dans lequel elle boit. Elle ne respire pas à l'intérieur, c'est-à-dire donc qu'elle fait ressortir son haleine par le nez ou par sa bouche, ala kulli hal, plus souvent c'est par le nez, à l'intérieur du récipient où il boit. Ça, c'est ce qu'on comprend du hadith qui est lui muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Le sens général ici est le marna al-ijmali. Naha al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam al-mukallafin an yuqarabu bi aymanihim mahal al-qadhurat wa an yaqdhira ahaduhum ala akhihi sharabahu bitanaffusi fi. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de s'approcher avec nos mains droites de tout endroit où il y a des impuretés. Taïb. Et également de ne pas polluer la boisson de son frère. Lorsqu'il va respirer à l'intérieur, il va rejeter son haleine à l'intérieur d'un récipient où lui il boit et les autres également ils boivent. C'est-à-dire donc un récipient ici que tout le monde utilise pour boire. Et donc dans ce sens-là, il va le polluer. Et on sait que, bien entendu, dans la laine, etc., il y a des microbes, etc. À la kulli hal, ici, c'est une question qui est claire. Ensuite, il nous dit « Firqul hadith ». Donc, ce qu'on tire de la jurisprudence du hadith, c'est la suivante. « Hamal al-jumhur al-nahi fi thalath al-masaili ala al-tanzih wal-adab ». Donc, la plupart des savants, ou la majorité, ils ont compris un nahi, donc ici, l'interdiction, comme étant quelque chose qui était détestable, et qui faisait partie donc d'une bab al-adab, des mœurs, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas une interdiction qui va être totale. « Wa haka al-hafidhu fil fath anna ahl al-zahir dhahabu ila al-tahrim wa adam ijza il-istijmari in waqa'a ala hadhi sifa qalahu fil fath. » Par contre, les gens du zahir, al-zahiriya, ils ont vu que c'était strictement interdit, al-tahrim. Et que la personne qui nettoie avec sa main droite, c'est l'impureté donc, al-istijmar, alors cela ne compte pas. Il doit donc refaire avec la main gauche. Donc on voit que, comme nous le rapporte Ibn Hajar fil Fath, on voit qu'ils ont vu même que si la personne, elle utilise sa main droite pour se laver, alors cela ne compte pas, il va falloir qu'il se relave avec sa main gauche. Naam. والتحريم في مس الذكر باليمين مقيد بالبول جريا على القاعدة الأصولية جريا على القاعدة الأصولية وهي حمل المطلق على المقيد. Et également, il est interdit donc de toucher son sexe avec la main droite au moment où on urine. Au moment où on urine. Et n'am. C'est-à-dire, donc, on comprend ici qu'il y a un taqyid, qui est une restriction de cette interdiction. Et cette interdiction qui est la suivante, donc qui est de toucher son sexe avec la main droite, cela est au moment donc de l'acte d'uriner, de faire son besoin. Et le shir, la preuve qu'il va prendre pour appuyer cela, et pour donc restreindre à uniquement dans cet état-là, c'est-à-dire donc l'acte de l'urine, ou d'uriner, l'acte d'uriner, c'est la règle de base. القاعدة الأصولية qui dit حمل المطلق على المقيد, c'est-à-dire donc quelque chose qui va être absolu lorsqu'on a une preuve que cette chose-là elle est restreinte par une preuve, par un nos, alors on la prend en compte et on restreint donc ce qui va être absolu. طيب, donc ici c'est le sens, donc ici c'est bien qu'il y a une restriction au moment où on fait nos besoins, et pas à d'autres moments. Donc, « نحمل المطلق على المقيد ». Ça, c'est le sens. Et ensuite, il nous dit « والقول بالتحريم الثلاث المسائل والأرجح ». Et en vérité, ceux qui ont dit que c'était strictement interdit, ce n'est pas seulement détestable, mais strictement interdit, les trois actes qu'on a vus, car il y a bel et bien trois actes ici, le fait de se toucher son sexe avec la main droite au moment où on urine, également le fait de se nettoyer les impuretés après avoir fait ses besoins avec la main droite, et ensuite le troisième, c'est bel et bien de respirer à l'intérieur du récipient où l'on boit. Où on boit. Il nous dit le wujud an-nahi wa adam as-sarif. C'est-à-dire qu'il y a la présence d'une interdiction, il y a la présence d'une interdiction, et qu'il n'y a rien qui va faire sortir ce statut, et qui est donc ici at-tahrim, l'interdiction. Il n'y a pas de preuve. Donc on s'en tient donc à ce qui est cité dans le hadith. Et on voit bien que le prophète sallam naha, c'est-à-dire qu'il a interdit. Car on voit que tous les qui sont utilisés nous prouvent que c'est à l'impératif, et ça l'impératif, comme on l'a vu, yani ça prouve donc l'interdiction. Par contre, c'est la personne, ça c'est contraire à Al-Zahiriya, et eux ils ont dit également que c'était le Tahrim. D'accord ? Donc le Shir il est d'accord dans ce sens, mais pour ce qui est de la parole qui ont dit que lorsqu'il nettoie les impuretés après le besoin avec sa main droite, qu'il doit refaire une deuxième fois un nettoyage, car cela où ce nettoyage n'est pas compté, car on sait que le nettoyage est obligatoire, donc ce nettoyage n'est pas compté, qu'il faut refaire, le chir dit non. Si la personne l'a fait avec la main droite, il compte, ce nettoyage compte, mais avec l'ithm, c'est-à-dire avec le péché, parce qu'il était à l'encontre du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire cela. Wallahu a'lam. Ici, je vais donner une faïda, une parole de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, comme un fichar al-mumti' al-azad al-mustaqna', où il nous parle de cette question, donc, et on revient donc sur le fait de toucher son sexe avec la main droite. Est-ce que cela c'est strictement interdit au moment où on fait l'urine, ou alors également en dehors de cet acte-là, au moment où on urine, ou en dehors de cet acte-là? Donc le chir, on a vu que lui, il a dit, suivant la règle, donc, Haml al-Mutlaq al-Muqayyad, il a dit que c'était uniquement lorsqu'on faisait son besoin. D'accord? Et ici, je vais rapporter donc une faïda sur les causes de cela, ou de cette parole-là, et les divergences, ou la divergence des savants. Et il nous dit donc, il nous rappelle, Cheikh Al-Uthaymeen, que les savants, ils ont divergé par rapport à ce qaïd, donc par rapport à cette restriction. Et donc, il y a ceux qui ont dit que c'était uniquement au moment où l'on faisait son besoin. Pourquoi cela? Parce qu'il se peut que la main, elle soit polluée par l'urine. طيب يعني ربما تتلوث يده بالبول. Donc ça, c'est une des raisons. Par contre, s'il n'est pas dans cet état-là, c'est-à-dire il n'est pas dans cette situation, alors, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant donc du sexe, innama huwa bid'atun mink, donc une partie de toi, c'est une partie de ton corps, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal que la personne touche son sexe en dehors donc de cet acte-là, par la main droite ou par la main gauche, car ça reste une partie du corps de l'homme. Donc on voit que la illa ici, pour ceux qui ont donné donc une cause, c'est qu'ils ont dit donc talawuth, c'est-à-dire que ça ne soit pas, que la main ne soit pas touchée par une impureté. Par contre, les autres qui ont dit que c'était général, qu'on ne devait pas le toucher, que ce soit au moment d'uriner et également dans les autres cas, de manière générale. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, eux, comme cause, yani comme argumentation, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme argumentation? Ils ont dit qu'en réalité, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de toucher notre sexe avec la main droite à ce moment-là, alors qu'on en a le plus besoin à ce moment-là. Et n'am, c'est dans un état de besoin. Tayyib. Donc, s'il nous a interdit à ce moment-là, alors que on est dans un état de besoin, alors minbabi aoula, c'est-à-dire à plus forte raison de ne pas le toucher alors qu'on n'en a pas besoin. Tayyib. Donc ça, c'est leur argumentation. Et il rapporte chez Al-Uthaymeen que les deux istidlal, donc les deux argumentations ici, elles ont de la valeur, la wajh, et qu'on peut les prendre en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que al-jazm bil karaha, c'est-à-dire qu'il est détestable ou alors interdit de toucher donc son sexe, c'est au moment où on urine, car c'est ici un nos du hadith. C'est le nos du hadith. Par contre, en dehors de cela, comme il nous dit le shir, famahal ihtimal, c'est-à-dire donc ici un ihtimal, ça peut être cela ou ça peut être cela par rapport aux deux argumentations qu'on a donné. Donc en réalité, il ne fait pas directement un tarjih, mais il donne, on va dire, pour comprendre encore plus pourquoi certains ont dit cela et pourquoi d'autres ont dit cela, et pourquoi ce qui est sûr, comme l'a dit Cheikh An-Najmi ici, c'est que de toute manière, ce dont on est sûr et certain, c'est qu'il est interdit de le faire au moment d'uriner. Ensuite, on va passer au 17e hadith. Et le dernier d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, يقول المؤلف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتير من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبا فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. Donc dans ce hadith de Ibn Abbas, dont le sujet est وجوب التحرز من البول وأن الترك ذلك والتساهل فيه والتساهل فيه موجب لعذاب القبر كالنميمة. Donc le sujet c'est que l'on doit s'écarter, se protéger d'être touché donc par l'urine. Et que celui qui délaisse cela, donc le fait de se protéger, et qui fait preuve de laxisme, alors il est sous une grande menace. Bel, cela implique al-azab, azab al-qabr. Ça implique le châtiment dans la tombe. Kan-namima, au même titre que an-namima. Comment on va le voir? Pour ce qui est du sens des termes, الضمير في قوله لا يعذبان وما يعذبان في كبير لا يعذبان يعود على القبرين أي من فيهما. C'est-à-dire لا يعذبان, ils sont châtiés, c'est-à-dire les deux, donc les deux sont châtiés, ça revient donc aux deux personnes qui se trouvent dans la tombe. في كبير صفة لموصوف محذوف تقديره ذنب كبير أو شيء كبير الاحتراز منه. Et donc ici, lorsqu'il a dit le prophète sallam وما يعذبان في كبير, c'est-à-dire donc ils ne sont châtiés qu'à cause de quelque chose qui est grand. يعني كبير ici, c'est un sifa, كبير, c'est un sifa, un adjectif, sauf que ce qui est décrit par l'adjectif, il a été enlevé ou effacé, mahdouf. Taqdiruhu, et il est donc entre parenthèses le terme dhanb, c'est-à-dire le péché, dans le sens donc où ils ne sont châtiés qu'à cause d'un grand péché. Donc péché ici, ça a été enlevé. Et on a laissé l'adjectif, fi kabir, ou alors une chose qui est grande, fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl. Donc un d'eux, il ne se protégeait pas de l'urine. Et donc le terme ici, ou le verbe la yastatir, la ya'mal al-wasa'il allati tamna'u usul al-bawl ilayh wa tadullu lahu ar-riwayat al-ukhra idh fi riwayatin la yastanzi wa fi riwayatin la yastabri wa fi riwayatin la yatawaqqa. Donc toutes ces versions qui sont venues dans le même sens que le terme la yastatir, et donc qui ont pour sens de ne pas prendre des précautions qui vont permettre d'interdire ou d'empêcher que l'urine nous atteigne. Et donc les autres versions qu'il a citées, le shir, la yastanzi, la yastabri, la yatawakka, tout ça, ça prouve donc l'acte de protection, l'acte de se protéger. Donc des verbes qui ont tous le même sens. أما أحدهما فكان لا يستتير من البول. Donc la cause ici, c'est que cette personne-là ne se protégeait pas de l'urine, que l'urine donc le touche. Il ne faisait pas attention à cela. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Et l'autre donc il faisait du namima. Il faisait du namima. Et il nous dit donc le shir, namima هو نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. C'est de rapporter des paroles auprès des gens, mais dans le but de quoi? De al-ifsad, donc de faire al-ifsad, de créer des problèmes, de créer des polémiques, de créer des tensions entre les gens, de l'aversion entre les gens, etc. Tout ce qui rentre donc dans le terme al-ifsad. Ça, c'est an-namima, et c'est la deuxième cause qui ont fait que l'une des deux personnes, ou la seconde personne, également est châtiée dans sa tombe. عياذاً بالله. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il a pris une feuille ou une tige qui est encore qui est encore fraîche, qui n'est pas fanée, dure, elle est encore fraîche, tayyib, elle est encore verte. Donc il l'a placée, fashaqqa nusfen, d'abord il l'a coupée en deux, et ensuite il l'a plantée. Fagharaza fi kulli qabrin wahida. Et donc les deux parties qui ont donc été coupées, il les a plantées les deux, à chacune, yani l'une à chacune des tombes. Et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, quand ils ont vu cet acte-là, ils ont demandé quelle était la cause de cet acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lima fa'alta hadha ya Rasulullah, faqal, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. C'est-à-dire, peut-être, wa la'allahu, ici la'allahu, la'allahu yukhaffifu. C'est-à-dire donc que cela va permettre at-tarfif. At-tarfif, donc ça ne va pas être ici, yani de dissiper le châtiment, mais de le rendre léger, plus léger. Donc d'alléger ici le châtiment dans lequel ils sont en ce moment. Tant que la tige ou la feuille ne va pas sécher, tant qu'elle ne va pas sécher, ou tant que les deux ne vont pas sécher, tant qu'elle reste verte, tant qu'elle reste donc dans leur état actuel, alors ça va être une cause que leur châtiment va être allégé. Et ce hadith, il est muttafaqun alayh. Il nous dit le shaykh, fiqh al-hadith, yukhadh min al-hadith. Qu'est-ce qu'on va prendre donc de ce hadith comme règle de jurisprudence? Il nous dit, awalan, ithbatu azab al-qabr, wa madhhabu ahli sunnati wal-jama'a, wa ankaratu al-mu'tazila. Donc le premier point, c'est un point de croyance. Et ce point de croyance, il est très important. Car ce hadith, il nous prouve qu'il y a un châtiment dans la tombe. Ce hadith, il nous prouve qu'il y a un châtiment dans la tombe. Et ici, si on insiste sur cela, c'est qu'il y a des sectes parmi les musulmans qui ont renié qu'il y a un châtiment dans la tombe. Et ces sectes-là, c'est Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila et ceux qui les ont suivis, Al-Mu'tazila. Ils ont dit qu'il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Et donc les gens de la Sunna, ils ont comme preuve ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont également comme preuve, comme on l'a étudié dans nos cours de croyance, lorsqu'on a parlé de la tombe, la première étape de l'au-delà, on a parlé de ce hadith, on l'avait également expliqué, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails de ce qu'on avait dit à propos de ce hadith et ce qui concernait donc la croyance, mais on avait rapporté également un verset du Coran. Non seulement il y a ce hadith qui nous prouve qu'il y a bien un châtiment dans la tombe, mais également il y a un verset du Coran. Qui c'est qui nous rappelle le verset du Coran? Qui c'est qui connaît le verset du Coran qui nous prouve également qu'il y a un châtiment dans la tombe? Et naam, hadha fi surat Ghafir, et c'est le verset 46. An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Donc Allah Azza wa Jal, il parle ici de Pharaon et de ses suiveurs. Et le sens, il est clair. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés au feu du matin au soir. Donc ici, c'est un adab qu'ils ont. Wa yawma taqumu as-sa'a, et ensuite, regardez le verset. Wa yawma taqumu as-sa'a, et au jour où l'heure va arriver, donc yawm al-qiyamah, adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Faites entrer Pharaon et ses suiveurs dans le plus grand des châtiments. Donc on voit, ensuite il y a le châtiment du jour dernier qui arrive. Et que avant cela, ils étaient dans un état de châtiment, car ils étaient en contact avec le feu, ils étaient confrontés au feu du matin au soir. Et avant, le jour du jugement, ils sont où? Ils sont dans leur tombe. Donc le verset, il est plus que clair, il est évident. Et ça prouve donc qu'il y a un châtiment dans la tombe. An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Wallahu musta'an. Ça, c'est la preuve du Coran. Et ici, on a la preuve de la Sunna. Donc un verset et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que peuvent dire après cela les gens de l'innovation? Ayadan billah. Thanian, la deuxième question. Annahu fil ghalib bi sabab al bawl wal namima wal bawl aghlab li hadithi tanazzahu min al bawl fa inna 'ammat 'adhab al qabr minhu. Akhraju Darqutni an Anas marfu'an wa qala al mahfuz mursal wa law shahidun 'an Ibn Abbas 'inda al Hakim wa Darqutni bi sanadin fihi Abu Yahya al Qattat. هو مختلف في توثيقه وآخر عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجة وقال صحيح على شرط الشيخين وافق والمنذر انتهى أفاده في الترغيب نعم. Donc à la kulli hal, le cheikh nous dit que la plupart des châtiments qui se trouvent fil qabr, donc la plupart le ghalib, c'est à cause donc de l'urine et c'est à cause d'une namima. Donc c'est les deux causes principales. Et l'urine, c'est encore ce qui est la cause la plus courante, encore plus que le namima. Et la preuve de cela, c'est le hadith qui est rapporté par Darqutni, min hadith Anas, et avec d'autres versions que le shir nous a citées, comme Ibn Abbas and al-Hakim ou Darqutni. Et à la kulli hal, ce hadith donc qui est tanazzahu min al-bawl, c'est-à-dire protégez-vous et écartez-vous de l'urine. Fa inna 'ammata 'adhab al-qabr minhu, car la majeure partie des châtiments de la tombe sont à cause de lui. La troisième question, yu'khadhu minhu najasatu bawl al-adami. لرواية الإضافة وهو مجمع عليه في الكبير مختلف في الرضيع. Donc ici, l'urine de l'homme, c'est une najasa, une impureté. Il nous dit لرواية الإضافة, c'est-à-dire dans une des versions. Ici, dans la version qu'on a, c'est لا يستطر من البول, avec l'alif, l'alif ou l'âme, من البول, يعني de l'urine. Mais une autre version où il est dit min bawlihi avec al-damir, donc min bawlihi wa al-damir ya'ud huna ila bani adam, ila l'insan, c'est-à-dire celui qui est en train de se faire châtier dans sa tombe, donc bani adam. Et c'est pour ça donc qu'il nous dit donc la version où il y a l'annexion à l'homme, c'est-à-dire l'urine est annexée, donc bel et bien était bel et bien annexée à l'homme, donc min bawlihi, ça prouve donc que c'est une najasa. Tous les savants sont d'accord pour dire cette parole en ce qui concerne la grande personne. Pour ce qui est du petit, c'est-à-dire celui encore qui allait de sa mère, Mukhtalafun fi ar-Rabi', il y a donc des divergences ici entre les savants. La quatrième question, قال العلماء في النميمة التي يترتب عليها هذا العذاب هي ما كان على جهة الإفساد. أما إذا كان في تركيا ضرر بمسلمين فَهِيَ مِنَ النَّصِيحَةِ الْمَحْمُودَةِ. Donc les savants, ils ont dit que le namima ici, c'était celui où le namima qui impliquait donc ce châtiment, c'était le namima qui était pratiqué suivant al-ifsad, donc la discorde et tout ce qu'on a vu, ce qui est entré dans l'ifsad. Par contre, si ce namima, si on le délaisse et que cela va impliquer donc al-darar les muslimines, c'est-à-dire un mal pour un musulman, alors ce n'est plus du namima en réalité, ça ne prend plus le nom de namima, mais de an-nasiha, du conseil, et c'est quelque chose qui est louable. La cinquième, gharzul jarid ala al-qabri khassun bir-rasul sallallahu alayhi wa sallam idha lam yunqal an ahadin min as-sahabati annahu fa'ala dhalik. Et naam. Donc c'est cette question qu'on avait détaillée dans les cours de croyance, on avait rapporté beaucoup de points et des rudud al-hadith shubha sur ceux qui disent qu'on peut le faire nous, à notre époque on peut le faire. C'est-à-dire tu vas maintenant vers une qabr et tu fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait en présence des sahaba, tu fais de même, c'est autorisé. Et donc le shir nous dit que ceci, cet acte-là qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de planter donc cette feuille avec sa tige donc auprès de la tombe, ça c'est quelque chose qui est propre et qui est khas, qui est propre, qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous donne une raison, le shir, et on va dire c'est une hujja qui pourrait être suffisante ou qui est suffisante, malgré qu'on en avait cité beaucoup. Et cette hujja ou cette argumentation qui nous cite le shir, c'est la suivante, c'est qu'en réalité, après que les sahaba ils ont vu faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont su, d'après ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait, personne parmi eux l'a refait après lui. Et l'a même fait. C'est pas refait, c'est-à-dire qu'ils ont refait ou qu'ils ont reconstitué l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam après que lui il l'a fait une fois. Personne ne l'a fait. Donc ça prouve, et ici on rentre bien fi fahm salaf salih dans la compréhension des peu prédécesseurs, ça prouve qu'en réalité eux ils ont compris, les sahaba, que cela était spécifique au prophète, et que si en réalité il avait eu un bien que eux ils le fassent, ils auraient été les premiers à le faire, et que s'ils auraient compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était une sunna pour lui et pour sa communauté, alors ils auraient été les premiers à le faire bien avant ceux qui prétendent que c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde et en tout temps. Et également, on avait rapporté, comme je l'ai dit, beaucoup de points dans les cours de croyance à ce sujet-là. Comme le fait que la personne qui va passer devant une qabr, comment cette personne-là, elle sait que dans cette qabr, la personne, elle est en train de se faire châtier. Peut-être c'est complètement le contraire. Et donc ici, on voit que, bien entendu, le prophète, il a su, il a connu l'état de ces personnes-là, bil wahi, par la révélation. Donc c'est pour ça qu'il a fait cet acte-là. Et qui peut dire ensuite que telle ou telle personne, à ce moment-là, elle est en train de se faire châtier, qu'à ce moment-là, j'ai fait cet acte du prophète sallam qu'il a fait. Et ensuite, on avait rapporté beaucoup d'argumentations, celle qu'a rapporté le shir, certainement la plus forte et la plus évidente. Sadisan, la sixième, أَخَذَ بَعْضُ الْعُلَمَا مِنْ قَوْلِهِ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا أَنَّ الْقِرَاءَةَ تنفع الميت بناء على أن التخفيف بسبب التسبيح الأخضر وهو خطأ لأمور. Donc certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont pris de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons lui ont demandé pourquoi tu as fait ça au prophète d'Allah, et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا, c'est-à-dire donc que cet acte-là va être une cause de l'allègement de leur châtiment, tant que la feuille ne se fane pas, ne devienne pas dure, et ne perd pas donc de sa fraîcheur, qu'elle ne sera donc plus verte. À la kulli hal, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont extrait de cette parole du prophète sallam? Ils ont dit que la lecture du Qur'an, tanfa'ul mayyit, c'est-à-dire elle est profitable pour le mayyit. Pourquoi cela? Et quelle est donc ici l'analogie qui est faite? C'est qu'ils ont vu que le tarfif, c'est-à-dire l'allègement du châtiment, c'était pour cause le tasbih de al-akhbar, donc de cette verdure, al-akhbar. Voilà donc quelle était leur argumentation. Le cheikh va répondre, il va dire ça c'est une erreur. Wa khata'un li umur. C'est une erreur. Il va développer pourquoi c'est une erreur. Premièrement, أن التسبيح ليس خاصا بالأخبار لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده واليابس شيء من الأشياء. C'est-à-dire que toute chose fait le tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose. Comme dans le verset du Coran, il n'y a point de chose qui ne fasse donc le tasbih, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi surat al-Isra, qui est le verset 44. Et donc ici, wa in min shay'in, c'est-à-dire c'est mutlaq, c'est général, c'est global, ça englobe tout. Il n'y a rien parmi les choses. Donc ici, l'ashya, c'est général. Et donc, c'est pas spécialement l'akhbar qui fait le tasbih, ce qui va être encore vert, ce qui va être encore frais, etc. Mais même ce qui est fané, al-yabis, ce qui est fané également, il fait le tasbih. Donc pourquoi avoir donné cette cause et pourquoi avoir spécifié que c'était uniquement al-akhbar? C'est-à-dire que même une fois que cette feuille elle va devenir fanée ou autre, une fois que cette feuille elle va devenir fanée, ça ne veut pas dire qu'elle arrête son tasbih. Elle continue son tasbih. Donc on voit que c'est une illa qui est fausse ici en fait. ثانيا أن علة التخفيف ليست بمعلومة في التسبيح. نعم. Donc, comme on a dit, la illa ici, elle n'est pas connue comme étant propre au tasbih. Thalithan, la troisième chose, le troisième point, أن القراءة لو كانت نافعة للميت لأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لم ينقله الله إلى الدار الآخرة حتى أكمل بي الدين بل نقل عنه النهي عن ذلك في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل الشيطان فمفهومه أن البيت الذي لا يقرأ أو لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر ولو لم تكن القراءة على القبر محرمة لما كان للتشبيه فائدة. Donc ici le Cheikh nous dit que si il y avait vraiment un bénéfice de lire le Coran auprès des tombes, auprès des morts donc, si c'était la ukanat nafira, si cette récitation, elle était utile, nafira, qu'est-ce qui se passerait? Ou qu'est-ce qui aurait dû se passer? C'est tout simplement que si ça aurait été un acte bénéfique pour le mort, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'aurait indiqué. Il nous l'aurait indiqué. Car on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose de bien sans qu'il ne nous l'ait pas indiqué. Une chose de mal sans qu'il nous a pas mis en garde. Et donc à ce moment-là, s'il y aurait eu un bien dans cela, il nous aurait indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lecture pour le mort. Et il nous dit le shir, et bien entendu, rien n'a été propagé du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'Allah azza wa jal l'a repris. C'est-à-dire donc, a repris son âme. Et alors que sa religion a été muktamal. Akmala bihi ad-din. Sa religion donc, elle a été parachevée totalement. Et pire encore, c'est qu'après cette première argumentation, on lui dit le shirk, pire encore. Nuqila anhu an-nahy. C'est-à-dire qu'en réalité, dans un hadith, il nous prouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cela n'est pas permis. Et de quelle sorte? D'abord, quel est ce hadith? C'est le suivant. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, également à Tirmidhi, min hadith Abi Huraira, et qui est un hadith authentique. La taj'alu buyutakum qubura, dans des versions maqabir. C'est-à-dire, ne laissez pas vos maisons comme des tombes. Ne laissez pas vos maisons comme des tombes. Fa inna al-bayt alladhi tuqra fihi surat al-Baqara. La maison dans laquelle il est récité la surat de al-Baqara, la yadkhulu ash-shaytan. Le shaytan, il ne rentre pas. Et dans une version, yafirru min al-bayt, c'est-à-dire il s'éloigne, il s'enfuit de cette maison-là. La maison où il est récité le verset ou la surat de al-Baqara. Ça, c'est la preuve. Ma wa wajhul istidlal. Qu'on va comprendre cette preuve? Il nous dit fa mafhumuhu. Ce qu'on comprend de cette preuve-là, que la maison, on ne lit pas surat al-Baqara, c'est comme al-Qabr. C'est comme al-Qabr. Pareil. Tayyib. Si c'est comme al-Qabr, ça veut dire que auprès de al-Qabr, on ne lit rien du tout. On ne lit pas et on ne fait pas de récitation du Coran. ولو لم تكن القراءة على القبر محرمة لما كان للتشبيه فائدة. Et nous dit le shir, et si la récitation auprès de la tombe n'était pas interdite, alors dans la métaphore qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le tashbih, c'est-à-dire donc ce qu'il a donné comme comparaison, il n'y aurait pas de faïda. Quelle aurait été la faïda qu'il aurait dit c'est comme une tombe si auprès des tombes on lisait le Coran, il était permis de lire le Coran. Donc c'est ça mafhoum. C'est ça ce qui est compris de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouve bel et bien qu'on ne récite pas auprès des tombes. La taj'alu buyutakum qubura fa inna al-bayt alladhi tuqra'u fi surat al-Baqara la yadkhulu shaytan. La yadkhulu ash-shaytan. Voilà donc pour ce qui est ce qui se rattache à la jurisprudence de ce hadith. Il nous dit al-munasaba. Al-Munasaba, pourquoi donc le shir il a rapporté ce hadith fi hadha al-bab, il nous dit fi hadha al-hadith ta'dhib liman lam yatanazza min al-bul wa fi dhalika dalilun ala najasati wallahu a'lam. Donc ici à la kulli hal, pourquoi le verset Warfon, pourquoi le hadith il a été rapporté, c'est tout simplement pour prouver donc que la personne elle est châtiée lorsque elle ne se protège pas de l'urine, et que donc ici c'est une preuve que l'urine est najasa et donc une impureté, et ça rentre bien donc fibab at-tahara, ça rentre bien donc dans le chapitre de at-tahara. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.